Pour la troisième fois ce matin, je vous propose d'utiliser ce texte d'Ésaïe 55 que nous venons de relire pour parler de ce thème de notre salut, c'est-à-dire simplement de notre accès auprès de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Durant les deux premières parties, nous avons pris le temps d'abord de détailler quelques facettes de ce salut. Sa totale gratuité dans un premier temps. Venez acheter sans argent, nous dit Dieu. Et puis ensuite, sa profonde suffisance. Écoutez-moi et vous vous délecterez d'aliments savoureux. Et il y aurait encore tellement de belles choses à découvrir dans ce sens. Mais aujourd'hui, tout en restant dans ce thème, je voudrais vous proposer de laisser de côté la présentation du salut pour nous attarder cette fois plus en détail sur une autre question. Quelle réponse donner à ce si grand salut? C'est aussi une question importante à aborder, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est même cette question qui est en fait le point saillant de notre passage. Oui, Ésaïe 55 est un texte qui nous parle des caractéristiques du salut de Dieu, et on s'y est donc longuement arrêté. Mais oui, plus encore, c'est surtout un texte qui appelle l'homme à se décider par rapport à ce salut. Et si vous voulez vous en convaincre, relisez juste le passage en relevant les verbes qui vont dans ce sens. Parce qu'il y en a 14 en fait. 14 juste dans les 7 premiers versets. Venez, venez, achetez, mangez, venez, écoutez, écoutez, tendez l'oreille, venez, écoutez, tournez-vous, adressez-vous, abandonnez et revenez. Oui, 14 verbes pour nous montrer cet appel insistant de Dieu envers l'homme, cet appel à nous décider et à saisir son salut suffisant qu'il offre gratuitement. Et donc aujourd'hui, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'attarde, sur notre réponse à cet appel. Et alors, première chose, cette réponse, la Bible nous dit qu'elle est à faire par la foi. Et par la foi seule. Aussi, ce matin, nous allons donc parler de la foi, et juste de la foi. Rien de plus, mais déjà tellement, en fait. Car au fond, c'est quoi la foi? Cette foi que Dieu attend comme unique réponse à son appel. C'est quoi? Ça veut dire quoi, avoir foi en Dieu? Voici une question fondamentale, non? Car puisque la foi est le seul moyen que Dieu nous a laissé pour être sauvés, alors nous ne pouvons pas nous permettre de mal la comprendre. L'enjeu est bien trop grand. Et pourtant, de nombreuses incompréhensions existent sur la foi, sur sa définition et sur son contenu. Mais des incompréhensions qui, du coup, viennent naturellement créer un flou sur cette question du salut. Aussi, pour éviter cela, et pour pouvoir nous positionner correctement, il nous faut absolument bien discerner, avant d'aller plus loin, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, la foi. Et c'est donc là-dessus que nous allons nous arrêter ce matin. Et puis ensuite, après cette première étape, nous pourrons alors revenir à cet appel d'Ésaïe 55 pour dire quelques mots sur cette question de notre décision, sur ce qu'on nomme habituellement le pas de la foi. Mais nous démarrons donc tout d'abord avec ce que n'est pas la foi. Et je vous propose deux mots pour voir cela. Deux confusions sur la foi que la Bible met en lumière. Premier point, La foi n'est pas la croyance. Nous voici ici, me semble-t-il, devant une confusion assez répandue. Et une confusion que l'on retrouve notamment dans des expressions ou des affirmations du type « Moi, je suis croyant, mais non pratiquant. » C'est-à-dire qu'on affirme avoir foi en Dieu, foi en qui il est et en ce qu'il fait, mais on tempère immédiatement en précisant que ce Dieu en qui on croit, eh bien au fond, on ne veut surtout pas avoir affaire à lui. On ne veut surtout pas vivre quelque chose avec lui. En bref, on ne veut surtout pas le pratiquer, entre guillemets. Mais on peut raisonnablement se le demander, une telle attitude est-elle la foi ? Je n'en suis pas sûr, donc. Car c'est un peu comme si moi je vous disais que je suis nudiste, non pratiquant. Vous auriez le droit de me répondre que c'est incohérent par définition, que le nudisme théorique, sans la mise en pratique, est vide en lui-même, puisque par essence, tout est dans la pratique. Eh bien, soyons sûrs que c'est la même chose avec la foi. Tout est dans la pratique, c'est-à-dire simplement, tout est dans le vécu avec Dieu. Et donc non, la croyance n'est pas la foi. Et la Bible d'ailleurs nous met vraiment en garde contre une telle confusion, sans ambiguïté. Lettre de Jacques au chapitre 2, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Oui, tu crois que Dieu existe ? Tu crois que le monde, les choses et toi ne sont pas dus au hasard ? Tu te dis qu'il est fort probable qu'il y ait un créateur, et qu'il est même tout à fait possible que ce soit celui présenté dans la Bible ? Tant mieux. Mais cela ne fait pas pour autant de toi un chrétien. Tu crois que Jésus a existé ? Tu crois qu'il était bon et parfait et qu'il est allé jusqu'à accepter de mourir sur une croix ? Tu crois même, pourquoi pas, que Dieu l'a ressuscité ? Après tout, si Dieu est Dieu, tout est possible. Et puis même, tu crois en la vérité du credo et de toutes les doctrines bibliques imaginables ? Tant mieux. Mais cela ne te sauvera pas. Parce que toutes ces vérités, les démons les savent aussi, et pourtant, ils tremblent. Alors, comprenons bien, il ne s'agit surtout pas de dire que ces croyances ne sont pas importantes. Bien sûr que non, au contraire même, elles sont essentielles. Essentielles car elles donnent le bon fondement de la foi. Pour ne pas tomber dans l'erreur d'avoir foi en Dieu, certes, mais en un Dieu qu'on se serait construit à notre guise, loin de celui qui est présenté dans les textes bibliques. Ce qui serait tout aussi vain. Oui, ces choses font partie de la foi. Mais le problème que je veux souligner ici, c'est quand la foi s'arrête là, à cette croyance en des vérités intellectuelles. Parce qu'alors, il y manque le cœur, l'essentiel, à savoir le choix de venir à ce Dieu dont on accepte l'existence et les vérités. C'est un peu, pour reprendre une image qu'on donne dans le parcours Alpha, c'est un peu comme si vous achetiez une magnifique voiture, que vous en dévoriez le manuel d'utilisation, mais que vous ne vous en serviez jamais. Pourtant, oui, vous connaissez tout de cette voiture. À quelle vitesse maximale elle va ? Le fonctionnement précis du moteur, l'adhérence des pneus et même comment régler la balance du son dans les haut-parleurs ? Mais vous oubliez pourtant l'essentiel, monter à bord et rouler. On continue. Et on continue avec une deuxième erreur, après la croyance. C'est ce qu'on appellera la confusion entre la foi et la tradition, ou la pratique de la tradition, pour être plus exact. Alors, je pense qu'on visualise bien l'idée ici, dans notre pays, fortement marqué justement par la tradition catholique et par ces pratiques rituelles qui perdent parfois si vite leur sens, ou par ces habitudes qui n'engagent pas ou qui n'engagent plus le cœur. Oui. Mais soyons-en convaincus, cette question dépasse bien évidemment les frontières du catholicisme. Et nous ne sommes pas plus à l'abri ici de confondre pratique d'une tradition et foi authentique. Je vous donne quelques exemples en vrac de cette confusion possible. Je pense à tous les enfants de chrétiens qui ont grandi dans l'Église et qui y restent, mais qui courent peut-être le risque de le faire plus par habitude ou parce qu'ils s'y sentent bien, voire utiles, parce que leurs liens, parce que leurs amitiés sont là. Je pense aussi, dans le même ordre d'idées, aux conjoints qui suivent le mouvement, mais qui courent aussi le risque de le faire davantage par fidélité vis-à-vis de celui qu'ils aiment que par véritable appropriation de l'Évangile. Ou alors encore, dernier exemple, je pense sous une toute autre forme, à tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont eu un vrai temps d'accueil de Dieu, mais pour qui cet accueil s'est petit à petit refroidi, au point de se demander aujourd'hui s'il ne serait pas devenu plus qu'un simple souvenir qu'on entretient ponctuellement et auprès duquel on se rassure, mais un souvenir d'une foi qui n'a peut-être plus de réalité concrète au présent. Et la liste est loin d'être exhaustive, bien sûr. Et alors, au fond, tout cela, c'était exactement le problème du peuple juif au temps de Jésus. Quand beaucoup, en fait, étaient ancrés dans la pratique d'une tradition plutôt que dans la foi. Quand beaucoup, par exemple, se rattachaient à la fidélité de leurs ancêtres, comme à une sorte de caution de leur propre foi. Ou alors quand beaucoup se rattachaient à des événements précis ou à la pratique rassurante de rituels dont ils avaient pourtant perdu le sens. Mais Jésus leur dira sans concession, « Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham. » Non, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Non, ne nous imaginons pas qu'il nous suffit de répéter en nous-mêmes que nous avons grandi avec la Bible dans une famille chrétienne ou que nous venons à l'église ou encore que nous participons à la scène. Non, la pratique d'une tradition n'est pas la foi. Elle peut certes beaucoup lui ressembler extérieurement, mais sans en avoir le cœur. Et donc, au vu de tout cela, il convient, je crois, pour chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, de nous demander avec honnêteté si on ne serait pas dans l'une ou dans l'autre de ces deux erreurs. Oui, voici une question importante à nous poser. Mais pour autant, et nous poursuivons notre réflexion, pour autant, il ne faudrait pas, bien sûr, en se posant ainsi ce genre de questions, tomber non plus dans l'autre extrême. Vous voyez, c'est-à-dire commencer à se mettre à douter à tout va de l'authenticité de sa foi. Parce que finalement, ce serait presque aussi dommageable. Du coup, afin d'éviter cela, il me semble donc indispensable de regarder maintenant ce que la foi est véritablement. Pour ne jamais avoir à en douter à tort, mais qu'au contraire, cela puisse apporter une vraie assurance à tous ceux qui l'ont saisi. Et comme pour tout à l'heure, je vous propose de voir ce qu'est la foi à travers deux mots-clés. Le premier de ces mots transparaît en fait de notre passage d'Ésaïe qu'on a lu, au verset 6 et 7. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie. Et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Dans ce texte, on le voit, se tourner vers l'Éternel semble lié à l'abandon d'une certaine façon de vivre. Et on note la même chose aussi avec Jésus, qui ne cesse d'adresser ce message autour de lui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous », c'est-à-dire « Abandonnez votre ancienne manière de vivre, car le royaume des cieux est proche. » Voici le premier élément essentiel de la foi. C'est la repentance. C'est-à-dire, si on revient au sens original du mot, c'est un changement radical d'attitude. Un changement d'orientation de notre cœur. Une prise de conscience qu'on est sur une voie erronée et un choix de retour vers Dieu. C'est simplement ça, la repentance. Décider en son fort intérieur de prendre dorénavant la direction de Dieu. Et puis, deuxième point et deuxième mot pour dire la foi, ce sera simplement la confiance. La confiance en Dieu, la confiance en Jésus-Christ et en son œuvre. Oui, voici l'autre mot qui revient sans cesse dans les Écritures lorsqu'est évoquée cette foi qui sauve. Nous voyons cela en fait dès le tout début, avec Abraham, le père des croyants. On lit dans Genèse 15, Abraham fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, et de rien d'autre donc, l'Éternel le déclara juste. Ou encore dans la lettre de Paul aux Galates, « Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. » Et bien d'autres versets, bien sûr, abondent dans cette même idée. Oui, la foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu pour son salut et pour sa vie. La foi, c'est choisir d'accueillir Dieu dans sa vie, de s'attacher à lui, de marcher avec lui. Repentance et confiance. Voici les deux mots-clés de la vraie foi. Et des mots, soyons-en sûrs, qui font toute la différence entre cette vraie foi et les pâles copies que nous avons vues. Car c'est une certitude, c'est exactement cela qui manque à la croyance. Et c'est exactement cela qui manque à la tradition. Il leur manque la repentance, ce changement d'orientation du cœur. Et il leur manque la confiance, cette volonté de se lier à Dieu dans sa vie. Voulez-vous savoir si votre foi est authentique? Eh bien alors, posez-vous honnêtement la question de votre repentance devant Dieu et de votre confiance en Dieu. Demandez-vous si intérieurement votre attitude a basculé. C'est-à-dire, demandez-vous si vous avez fait le choix dans votre cœur, et que vous continuez bien sûr à le faire, de dire non à une vie loin de Dieu, et oui à une vie avec lui. Demandez-vous cela, et rien de plus. Rien de plus qu'une repentance et une confiance authentique. Oh certes, sans doute pas parfaite, il nous faut bien le reconnaître, notre repentance et notre confiance ne sont et ne seront jamais parfaites, on est d'accord. Et il y aura toujours ici ou là des lieux dans nos vies où elles n'auront pas encore pénétré. Et il faudra probablement du temps pour que nous apprenions à laisser Dieu investir tous ses recoins. Non, la repentance et la confiance authentique ne doivent pas être vues en termes de perfection, inatteignable évidemment, mais par contre, elles doivent être vues en termes de dynamique générale de notre cœur. Oui, voici ce qu'est la foi, la dynamique générale d'un cœur qui a pour habitude de se tourner dans la direction de Dieu et de s'attacher à lui. La dynamique générale simplement d'une vie qui pointe résolument vers Dieu. Voilà ce qu'est la foi. Et voilà ce que nous pouvions dire là-dessus. Et je voudrais maintenant vous inviter, pour conclure cette réflexion, à dire quelques mots, à présent que nous avons vu ce qu'est la foi, dire quelques mots sur le pas de la foi. Et en particulier, je vous invite à voir la façon dont la Bible en parle, de ce pas, de cette décision. Nous l'avons dit, c'est le thème omniprésent de ce chapitre 55 avec ses 14 verbes qui nous appellent à nous décider. Alors, comment Dieu envisage-t-il cette décision pour nous? Eh bien, dans un premier temps, je crois que la Bible nous montre que Dieu nous invite à faire le pas avec une certaine urgence. C'est maintenant le moment tout à fait favorable, dit l'Écriture. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres. Une urgence. Et pourquoi une urgence? Eh bien, on le devine aisément, c'est parce que d'un côté, l'enjeu est si grand. On l'a dit, il est question d'éternité. Et que de l'autre côté, eh bien, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et s'il ne sera pas trop tard pour nous décider. Et ces paroles de Jésus, dans la parabole de l'homme qui voulait profiter de sa vie, ces paroles doivent résonner en nous. L'homme dit à son âme, « Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. » Oui, il y a urgence pour chacun d'entre nous à se décider des questions d'éternité. Mais en même temps, comme pour faire un contrepoids, l'Écriture nous invite néanmoins à ne quand même pas confondre vitesse et précipitation. Et si elle parle d'urgence, elle parle aussi d'une urgence réfléchie. Car il serait encore pire, au fond, de venir par urgence, mais sans avoir pris la mesure de notre engagement, et pour repartir ensuite, aussi vite que l'on était venu. Dans une autre de ses paraboles, Jésus met en avant cette réflexion nécessaire. En effet, dit-il, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Oui, une réflexion est nécessaire avant de choisir de s'attacher à Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le choix prioritaire d'une vie. Et donc, on ne peut pas le faire en le conditionnant ou en le soumettant à d'autres choix, d'autres liens ou d'autres enjeux. Celui, dit Jésus, qui choisit Dieu tout en étant prêt à l'abandonner à cause de sa famille, par exemple, ne peut être son disciple. Et puis aussi, une réflexion, car c'est également un choix qui a des conséquences qui ne seront pas toujours faciles. Et l'image de la croix à porter que nous trouvons dans les évangiles, symbole des difficultés spécifiques que rencontrent ceux qui marchent à la suite du Christ. L'image de cette croix nous montre bien la difficulté de ce choix. Oui, parce que c'est un choix prioritaire et parce que c'est un choix qui coûte il est nécessaire d'en calculer la dépense avant de le faire. Il y a urgence parce que rien n'est plus important. Mais il y a donc aussi une réflexion à avoir au cœur de cette urgence. Quoi qu'il en soit, alors que nous terminons maintenant, nous pouvons en tout cas être sûrs d'une chose, c'est que ce texte nous lance personnellement un appel à nous décider dans cette urgence réfléchie, mais un appel à nous décider. Et donc se pose à présent pour chacun d'entre nous la fameuse question : que répondrez-vous à cet appel ? Que répondrez-vous à cette invitation de Dieu ? Lui direz-vous « Non merci, j'ai calculé la dépense et je préfère ne pas me saisir de ce que tu offres. » C'est votre droit, Dieu vous laisse cette liberté. Dieu accepte que vous refusiez son salut, même s'il ne le souhaite pas bien sûr. Mais si c'est votre réponse, alors je voudrais juste vous encourager à une chose. Faites-la vraiment en connaissance de cause. C'est-à-dire, ne faites surtout pas l'erreur de ne pas venir vers Dieu juste parce que vous n'avez jamais véritablement pris le temps de creuser la question. Trop occupé que vous étiez à vivre votre vie. Ou encore, ne faites pas l'erreur pour les mêmes raisons de vous contenter d'une croyance ou d'une tradition, qui tranquilliseront sûrement votre conscience, mais qui ne seront jamais, on l'a vu, cette foi qui sauve dont parle la Bible. Non, l'enjeu est bien trop grand pour ne pas vous confronter vraiment à cet appel de Dieu. Ou alors, peut-être voudrez-vous dire oui, un oui à Dieu, un oui à Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Cette œuvre est bien sûr le fondement de tout ce que nous disons aujourd'hui. Puisque c'est en mourant sur cette croix à notre place, pour payer pour nos fautes à notre place, que Jésus vient ouvrir entièrement pour nous la porte du salut. Alors oui, peut-être direz-vous oui à Dieu. Le oui de celui qui veut prendre une nouvelle direction. Le oui de celui qui choisit de se tourner vers Dieu et de lui faire confiance. En bref, le oui de la foi. Un oui qui n'a pas tout résolu, bien sûr, mais un oui qui vient. Et alors, si vous dites oui, sachez que vous êtes heureux. Vous êtes heureux car en réponse à votre oui, Dieu vient vous promettre qu'il va vous sauver, qu'il va vous prendre au ciel avec lui. Et même que dès aujourd'hui, vous allez pouvoir entrer dans une relation vivante avec lui. Et il n'y a rien de plus beau que cela. Et puis enfin, je voudrais aussi dire deux mots pour nous tous qui avons peut-être déjà dit un oui authentique à Dieu. Mais qui, pour une raison ou une autre, avons parfois laissé le diable remettre en cause ce oui. C'est-à-dire remettre en cause l'authenticité de notre foi. À cause, par exemple, du constat de nos imperfections persistantes. Alors, si tel est notre cas, rappelons-nous juste autant de fois qu'il le faudra, que le salut est une promesse irréversible de Dieu, faite à tous ceux simplement qui sont entrés dans une dynamique de repentance et de confiance. C'est-à-dire à tous ceux qui ont orienté leur direction vers lui et qui ont choisi de s'attacher à lui. Sans rien de plus que la sincérité de ce pas de foi qui choisit de venir et de marcher auprès de son Dieu. Aussi, si nous avons fait une telle démarche, eh bien alors réjouissons-nous. Et réjouissons-nous sans retenue, d'appartenir sans aucun doute possible à ce Dieu qui nous offre son salut gratuit et suffisant. Venez, venez, achetez, mangez, venez, écoutez, écoutez, tendez l'oreille, venez, écoutez, tournez-vous, adressez-vous, abandonnez et revenez. Voici la grande invitation de Dieu. Que nous puissions tous l'accepter et la serrer fermement contre nous. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.